chaque fin de semaine, les rendez-vous de l'Office du Tourisme du Pays d'Angoulême sur Attitude.
Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'émission de l'Office du Tourisme, le magazine qui traite de l'actualité du pays de Langoumois. Merci d'écouter Attitude et pour commencer cette émission, j'accueille notre animateur vedette. Bonjour Enrico.
Et salut poulet.
Ça va comme tu veux.
Comment tu vas?
M'écoute très bien.
Tu vas très bien. Toujours une émission classique, bien sûr, de l'Office de Tourisme du Pays d'Angoulême qui met en avant les différentes manifestations sur le Pays d'Angoulême et Langoumois, comme tu le disais. On retrouve bien sûr toutes ces informations et toutes les informations de notre invité sur le site de l'Office de Tourisme du Pays d'Angoulême au www.angoulême-tourisme.com. Vous pouvez également aller sur les différents réseaux sociaux pour retrouver ces manifestations. Complète. On va présenter directement notre invité qui est Silvio. Tout Angoulême le connaît. Bonjour Silvio. Alors j'ai toujours, je t'appelle des fois Azzola, mais c'est le l'accordéoniste. C'est Silvio Pianezzola. À chaque fois je me trompe, donc je suis obligé de lire. Je sais que Silvio m'en veut pas. Comment tu vas, mon Silvio?
Très bien. Bonjour. D'abord.
Bonjour à toi.
Merci. Tout va bien.
Tout va bien. Tu es présent avec nous pour une exposition. On le disait en off, mais on va le rappeler. C'est assez rare que tu aies une exposition sur la ville d'Angoulême même. Et c'est un bonheur, cette fois-ci, de t'avoir jusqu'au 21 mai. On pourra retrouver ton travail, et ton exposition, l'exposition qui s'appelle Architecture, directement au musée, d'Angoulême, hein. Vous pourrez, retrouver les œuvres. Et puis après, je sais pas s'il y aura des moments où on pourra te rencontrer.
Oui, il y aura un moment le 4 mai.
Tu sais que souvent le musée fait ce genre de choses, donc voilà.
Justement, voilà, ce sera un midi au musée, donc à cette date-là, mais par la suite, enfin en dehors de cette date, s'il y a possibilité, je suis dans le secteur éventuellement.
Exactement, et tu peux marquer ta présence si besoin, en sachant qu'on te connaît aussi, et puis les Angoumoisins et les Charentais, d'ailleurs parce que tu n'es pas qu'Angoumoisin, les Charentais te connaissent en tant que guide conférencier, tu es voilà quelqu'un qui raconte des histoires, et les gens adorent et me tannent pour que ça soit toi qui fasse les rencontres, mais tu n'es pas toujours dispo parce que tu as une vie et du dessin. Et en dehors de ton travail, tu as quand même cette passion qui est aussi un travail malgré tout parce que tu dessines énormément. J'aimerais que tu nous racontes un peu comment la passion dessin est venue en toi et comment aujourd'hui on se retrouve à avoir des dessins qui sont juste hallucinants.
Alors écoute, franchement, la passion, je peux pas te l'expliquer. On explique assez difficilement une passion et comment on y arrive. Surtout, le problème, écoute, un jour j'ai été interrogé par un journaliste qui avait rédigé un article et qui a expliqué « Silvio dessine depuis l'âge de 3 ans ». Je n'en sais rien. Je ne sais pas.
Mais tu avais déjà un crayon et où tu avais.
Oui, voilà. C'est-à-dire depuis tout petit, j'ai toujours eu un crayon dans la main. Maintenant, c'est plus souvent une plume, mais j'ai toujours eu un crayon. J'ai toujours dessiné.
D'accord. Voilà. Donc c'est quelque c'est chose. Ça a été voilà. C'est pas défini au départ ou c'était pas une envie. C'est en
c'est,
toi.
C'est-à-dire c'est que oui, j'ai commencé à dessiner à un moment où je ne m'en souviens plus.
comment ça, veux-tu ça, c'est génial.
Donc voilà, comment veux-tu que je t'explique ça? Alors, il y a quand même quelque chose à souligner, ma mère dessinait.
Ah, donc le regard peut-être de ta maman, t'as peut-être...
Exactement, mais elle ne m'a jamais forcé ni quoi que ce soit. Dans la famille, du côté de ma mère, on a plusieurs artistes dessinateurs. On a des dessinateurs de bande dessinée, par exemple, et autres. Ma mère a étudié la couture et le dessin pour devenir styliste, en fait, et créer des modèles. Donc c'est elle, déjà, quand j'étais tout gamin, qui m'a appris les proportions du corps humain.
Ah d'accord, donc ouais, c'est un truc, c'est voilà, tu l'as pas appris à l'école.
Non.
Tu l'as appris grâce à ta maman.
Voilà, quand j'étais gamin, à l'âge de 10 ans, je connaissais les proportions du corps humain. Alors attention, ça ne veut pas dire que je les maîtrisais à cette époque-là.
Oui, mais t'avais...
Mais je les connaissais.
Tu savais que ça pouvait être erroné sur ton dessin, et donc tu savais qu'il y avait peut-être une erreur ou un truc qui faisait que...
Tout à fait.
Et un côté de l'esthétique.
Et c'est toujours à travailler à partir de ce que l'on connaît. Elle m'a appris également les jeux d'ombre et de lumière. Donc les premières notions de relief, je les ai eues grâce à elle.
Et assez tôt, parce que ce genre de travail se fait plutôt quatrième, troisième. Je sais que moi, dans le dessin, on commence à apprendre ces trucs-là un peu plus tard.
Alors par contre, les notions de perspective sont arrivées justement à ce moment-là.
D'accord.
Mais quoi qu'il en soit, que ce soit l'anatomie, la perspective, tout ce que tu veux, ce sont des techniques que l'on travaille tout le temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'apprends encore.
Voilà.
C'est pas, c'est... Et j'espère que dans 40 ans, j'apprendrai encore.
J'espère aussi pour
d'abord,
toi.
D'abord, ce sera bon signe.
C'est pas faux. Moi aussi, j'aimerais que dans 40 ans, tu me rappelles encore, tu me racontes encore des histoires. J'aimerais bien être là. Mais la, c'est pour toi, que ce soit le corps humain, que ce soit la perspective ou que ce soit l'architecture, puisque c'est le thème que tu proposes, c'est quelque chose que tu... pour toi c'est important de le maîtriser, mais c'est aussi important de continuer à le maîtriser, parce que il y a des nouvelles techniques, parce qu'il y a des nouvelles façons de voir, et puis il y a des déstructurations, c'est ce que tu proposes aussi dans le cadre, oui, du hein, parce que c'est ça, il y a la réalité et je sais pas comment on peut dire, le rêve, l'imaginaire. Comment tu passes de quelque chose de très concret, puisque toi t'as été habitué grâce à ta mère, grâce à tes connaissances, grâce aussi aux études que t'as fait, puisque l'architecture, et c'est ce que tu proposes, vient aussi du travail et de la maîtrise que t'as des différents styles architecturaux. Comment après tu, parce que je voudrais que tu parles de ça, comment après tu casses les codes pour faire les propositions que tu nous fais aujourd'hui?
Écoute, à la base, donc, il y a, je veux pas dire une formation classique, mais il y a un certain classicisme.
Mais le classicisme, toute façon. Le classicisme et est important.
C'est primordial.
Les gens l'oublient, hein. Mais oui, c'est hyper important.
C'est primordial. Comme disait Michel-Ange.
Un pote, je mangeais à la cantine avec lui.
Un copain, moi aussi.
J'ai vu son taf au matin.
Voilà. Tu as vu son site, c'est pas mal,
oui,
quand même, hein.
Oui,
voilà. C'est,
oui, bon. Ah, si j'ai cher, bon. Faut lever la tête. mais voilà.
Pas que. Mais bon. Voilà. Donc, quelqu'un que je vénère, bon, lui disait que le meilleur moyen de transgresser une règle, c'est de la connaître. Voilà.
Exactement. Donc, ça, c'est bien. Voilà.
À la base, il y a de toute façon des artistes qui m'ont inspiré, mais dans des styles complètement divers, c'est-à-dire que ce sont autant des auteurs de bande dessinée, mais de bande dessinée pas forcément très réaliste. C'est le genre d'auteur qui dessine des personnages avec des gros pifs, que ce soit Astérix, Boule et Bill,
ou alors
voilà, par exemple, ça peut être Hugo Pratt, ça peut être d'autres, dans des styles tout à fait différents. Et puis j'ai toujours adoré les dessins d'architecture. Il y a un artiste qui m'a beaucoup inspiré, c'est le Piranèse, un artiste du 18e siècle. Alors
là, tu parles de Dieu. À un moment,
le Piranèse qui inspire encore aujourd'hui, par exemple, des décorateurs dans le domaine du cinéma. Hein. Donc le Nom de la Rose, il y a des décors inspirés des architectures de Piranèse, par exemple. Donc ces gens-là m'ont inspiré. Mais le Piranèse a déjà proposé cette espèce de rupture entre le réalisme et la fabulation. C'est-à-dire il a créé des architectures complètement irréelles, dont certaines pourraient éventuellement être comparées à des architectures qui ont été bâties parfois plus de 100 ans plus tard, à la fin du 19e siècle, à la période éclectique, à la Belle Époque, par exemple. Mais des choses complètement démentielles. Déjà, ça, c'est une base. On a quelqu'un qui, au 18e siècle, déjà avait franchi le pas.
Ouais, et alors ça, c'est étonnant, parce que je ne savais pas que c'était si voilà, qu'il avait, je connais moins son travail un peu comme tu disais, comment on appelle ça, futuriste dans
voilà.
L'idée.
Voilà. Alors il y a moins de courbes, il y a moins d'élasticité dans les architectures, mais la création de bâtiments qui sont assez extraordinaires. Il a créé des édifices qui sont composés uniquement d'entassements, de sculptures, de chapiteaux, de morceaux de colonnes, et qui ressemblent à de véritables palais. Qui ne serait pas très pratique à vivre, mais.
Et alors, et toi qui as commencé dans le classicisme et qui aujourd'hui est dans quelque chose d'un peu plus différent, on connaissait ton travail, je pense que certains de nos auditeurs connaissent déjà le travail que tu faisais à l'époque et la mutation qu'il y a eu. Ces inspirations, tu parlais bien sûr de le Milanèse, mais tu t'inspires toujours de tout ce que tu vois, de tout ce que tu regardes, de tout ce que tu touches. Pour moi, en fait, c'est essentiel. J'ai pas ton niveau artistique, hein. Chacun reste à sa place. Mais je me rends compte souvent que quand je parle à des gens d'art contemporain, je leur dis toujours que l'art contemporain est souvent lié à un art d'avant, et cet art d'avant est lié à un art d'avant, et ainsi de suite. Et moi, j'essaie d'expliquer aux gens souvent que tous les arts sont liés. Il y en a pas un qui est plus beau que l'autre. Il y en a un qui relie l'autre, et faut essayer de voir le lien ou l'inspiration. Toi, tes inspirations, elles sont évidentes, ou des fois tu les maîtrises pas. C'est juste un flash.
Il y a un petit peu des deux.
Oui,
franchement, c'est... un petit peu des deux, mais c'est vrai que par exemple, on pourrait deviner si on connaît certains éléments qui viennent de Venise, de Rome ou de choses comme ça, qui sont complètement réinterprétés. Et après, il y a des idées qui viennent, mais oui, c'est une sorte de clash qui peut intervenir. Mais là, je ne peux pas dire quand, comment.
Et c'est ça, c'est le propre de l'artiste, c'est de ne pas forcément avoir la maîtrise.
Il y a le moment.
Voilà,
il y a vraiment le moment.
Et si tu le fais deux jours plus tard, ben le moment il a peut-être disparu et t'auras pas peut-être la même envie ou le même rendu.
Alors en général, quand il y a un truc comme ça qui me tombe dessus,
t'es comme les bons écrivains, il reste.
Mais alors c'est aussi un problème ça, parce que disons qu'il y a pas mal de projets qui sont commencés, qui ne sont pas finis, et je ne sais pas quand je les finirai.
C'est le propre des artistes. On va être obligé de faire une petite coupure, Silvio, le temps d'une publicité. On vous rappelle que vous pouvez aller voir l'exposition Architecture au musée d'Angoulême jusqu'au 21 mai. On fait une petite coupure publicitaire et on retrouve tout de suite Silvio pour la deuxième partie de l'émission de l'Office de Tourisme du Pays d'Angoulême.
Chaque fin de semaine, les rendez-vous de l'Office de Tourisme du Pays d'Angoulême sur Attitude.
De retour pour la deuxième partie du magazine de l'Office du Tourisme. Enrico, je te rends l'antenne.
Toujours avec notre ami Silvio Pianezzola, qui est présent avec nous pour nous parler de son exposition qui se déroule jusqu'au 21 mai au musée d'Angoulême. Tu sais dans quelle salle d'ailleurs ou pas?
Je serai installé avec Boucard.
Ah voilà.
La grande vue d'Angoulême.
Ok, super. D'accord. Donc tu seras dans la partie dernier étage.
Exactement, dans la section Beaux-Arts.
Dans la section Beaux-Arts, tout à fait. Vous pourrez aller rencontrer les œuvres de Silvio dont on est en train de vous parler. Et de cet artiste qui est assez particulier, Silvio, tu navigues, alors on le sait, et ton nom est inscrit, tu navigues entre l'Italie et la France. Donc tes inspirations sont souvent franco-italiennes.
Oui, exactement. Mais attention, il y a aussi des inspirations charentaises. C'est intéressant pour moi d'ailleurs quand j'ai cité le Boucard, parce que Angoulême, je l'ai tellement représenté, donc
quelque part.
Je dis pas que c'est le genre de tableau qui m'est inspiré, mais ça reste malgré tout une sorte de référence.
Ça reste une belle référence, bon, Boucard, pour les Charentais.
Oui, ça reste une belle référence et c'est bien que je sois dans ce quartier-là.
Voilà, ça te plaît. Le travail que tu proposes est de combien de dessins?
Il y a un peu plus d'une douzaine de tableaux,
voilà,
de différents formats. Il y a ce que l'on appelle, par exemple, le format raisin. Il y a des formats à trois, des formats un peu plus petits.
Voilà, parce que tu travailles vraiment. Et alors après, j'aimerais que tu expliques un peu ta technique, parce que souvent les gens se demandent comment tu peux mettre autant de détails dans d'aussi petits trucs. Pas forcément le dessin. Je parle de sur un mur, sur un côté, sur un... Comment en fait tu travailles, parce que tu parlais bien, tu ne fais pas de la peinture, tu fais du dessin, puisque tu travailles à l'encre de Chine, je dis pas de bêtises.
Oui.
Voilà.
Et avec une plume.
Et alors explique-nous un peu ta technique. Tu pas main levée, à la règle, au machin. Au...
Jamais la règle.
Jamais. T'es sérieux?
Non, mais sérieusement, même quand tu vois une ligne droite dans mes dessins,
oui,
rapproche-toi un peu et tu verras que la ligne ne sera jamais à 100% droite.
C'est
vrai. Quelque part, tant mieux,
parce que sinon le
dessin gagne, enfin gagne.
Si le dessin gagne
une certaine rigidité,
voilà, et gagne en réalisme. Raison. Le fait que ça soit pas une ligne droite.
Les lignes ne sont pas complètement droites, donc tous les instruments qui pourraient m'aider techniquement, règle, compas, interdit.
Mais voilà. Alors tu vois, alors que moi j'étais persuadé que
interdit,
tu l'utilisais
interdit.
Malgré tout.
J'utilise une règle pour tracer les limites du dessin, le cadre,
c'est
et
tout.
Ça s'arrête là. Éventuellement, quand je travaille sur un grand format, un format raisin, je trace une grande verticale au centre, une grande horizontale.
Oui, pour avoir la perspective,
voilà,
et qui permet vraiment d'avoir d'équilibrer le dessin.
Et je trace les lignes de fuite, effectivement, pour étudier la perspective.
Bien sûr,
autrement, tout est fait. Alors d'abord, il y a le travail du crayonné, mais tout est fait à main levée. Et ensuite, petit à petit, l'ancrage. Parfois, la partie crayonnée, la partie ancrage se chevauche, parce que pour des dessins surtout de grand format, il est difficile de réaliser tout l'ensemble du crayonné avec tous les détails, parce que si tu veux, le trait que j'arrive à obtenir avec la plume, avec la finesse que j'arrive à avoir, je n'arrive pas à l'avoir avec quelques crayons que ce soit.
D'accord.
Donc je suis obligé de faire par étapes, autant dans le crayonné
et prendre
que par
recul,
l'ancrage.
Voilà, pour dès que le volume est grand, t'as besoin de reculer et de voir comment ton travail
exactement
se met en place.
Mais déjà, j'utilise plusieurs plumes. plusieurs calibres.
D'accord, ok. Alors
et pour les plus fines que je puisse trouver, je les travaille à l'envers.
Ah, tu les casses.
Retourner,
oui, oui.
Voilà.
Donc tu la rends. Disons,
elles ne sont pas cassées, mais ça casse leurs
habitudes. Oui, non, mais quand je dis casse, oui, voilà. Quand je dis casser, c'est casser bien sûr la ligne naturelle que tu
exactement.
As quand tu appuies, puisqu'elle est dans l'autre sens, elle s'ouvre moins, donc elle reste encore plus fine.
L'encre s'écoule plus difficilement,
exactement.
Et donc forcément, alors ça gratte un peu plus
comme
le
ça
papier.
Que tu arrives, oui, oui,
oui. Et oui. Le,
ah,
alors
tu,
c'est,
voilà.
c'est.
Non, je connaissais la technique,
hein.
Mais je pensais. Mais je sais qu'après c'est compliqué sur des formats très grands d'utiliser ces lignes très fines. On a tendance soit à casser le papier ou à des fois voilà baver. Si t'appuies trop et
non, non.
Et tu casses
alors
le
là,
truc.
Pour le coup, ça fait que bon, l'encre s'écoulant plus difficilement, ça fait un travail qui est encore plus long que si je travaillais la plume
mais
normalement.
Mais c'est
logique,
ça qui est
hein.
fou, parce que tu mets combien pour un dessin?
J'en sais rien. J'en sais rien, je peux pas te dire. Surtout qu'il m'arrive d'en travailler deux, trois en même temps, mais grosso modo, oui, c'est, je devais réunir. Écoute, j'ai fait une expérience un jour pour travailler un dessin, alors pour une vue réelle. Hein, c'est une façade de cathédrale, la cathédrale d'Orvieto, qui sera exposée d'ailleurs, qui est exposé au musée. Et cette façade de cathédrale, j'ai voulu la représenter comme si c'était une vue frontale créée par un architecte, dessinée par un architecte qui présenterait son projet, grosso
oui,
modo.
D'accord,
hein.
Okay, ouais.
Alors qu'en réalité, voilà, ouais. Alors que en réalité, cette façade de cathédrale à Orvieto, on ne peut pas la voir frontalement. C'est-à-dire que moi, j'ai utilisé cette fois-ci le procédé inverse d'une vue qui paraîtrait réelle et qui ne l'est pas justement parce que sur place, on n'a pas le recul pour voir cette façade médiévale qui est un petit peu enclavée dans toutes les constructions de la ville ancienne.
De la ville. Donc en fait, on ne peut que lever la tête, on ne peut pas
avoir
ce recul.
Voilà, il a fallu que je fasse un travail inverse. Donc ce format qui est un format raisin, j'ai travaillé ce grand format tout seul. J'ai laissé de côté tout ce qui se trouvait à côté. Je suis resté un mois complet dessus.
T'es resté focus un mois pour un dessin.
Un mois. Mais je n'ai pas calculé les heures. Par contre, là, il ne
non,
vaut
non.
mieux pas. Parce que autant te dire, je m'exploite.
Non, mais c'est important que les gens... souvent, les gens voient... une somme d'argent, un prix, une valeur, peu importe comment on l'exprime, en se disant ok, c'est une feuille de papier avec un dessin, mais on voit pas en fait le travail, on voit pas en fait l'idée, on voit pas en fait tout ce qui se trame derrière ce que tu viens d'acheter, parce que quand tu acquiers une œuvre, si tu lui racontes l'histoire, d'un coup d'un seul, l'œuvre c'est plus qu'une œuvre, c'est aussi une histoire, et c'est ça qui est rigolo, c'est de dire bah tu vois le dessin de cette cathédrale, je l'ai, mais tu peux pas l'avoir comme ça. Et donc l'artiste, en fait, il m'offre quelque chose que personne d'autre ne peut avoir qu'à part si tu viens chez moi pour la regarder. Et c'est ça qui est génial. Et on se rend pas compte de l'invisible. Et c'est ce que tu proposes. C'est ça, moi, qui m'étonnera toujours sur des artistes comme toi et plein d'autres. Mais l'idée qu'en fait, on offre pas qu'un moment et un truc en disant un souvenir. C'est pas un souvenir. On t'offre un truc qui a une valeur... à raconter. Je sais pas si toi tu le. C'est pour ça que je sais que toi t'aimes bien parler aux gens de tes œuvres parce que c'est aussi l'idée de dire voilà l'œuvre elle a une histoire. Je sais que quand on fait des vernissages, tu restes collé aux gens pour leur raconter ton truc parce que c'est important pour toi.
Alors par contre, tu vois, je peux parler éventuellement d'une œuvre. Ce n'est pas toujours facile en réalité hein, de parler de son travail.
De soi, bah
et d'ailleurs, il y a même une différence entre parler de mon travail et parler de moi en tant qu'artiste. C'est déjà encore plus complexe. Alors j'expose souvent avec d'autres artistes. J'expose
ouais,
souvent avec le sculpteur Didier Salvant, par exemple. Et quand on fait un vernissage ensemble, c'est souvent lui qui parle de moi. Il commence son commentaire en disant, voilà, Silvio Pianezzola, il est artiste, il est aussi guide conférencier, il va vous parler de tel ou tel monument. Mais quand il parle de lui, bah, il est pratiquement muet, en fait.
Bah, c'est vrai que toi, t'aimes le one-one. T'aimes pas trop le groupe pour parler de toi. Après, parler à quelqu'un comme ça, ça peut passer. Mais c'est vrai qu'après, le côté grandiloquent est un peu plus compliqué pour toi. Ce qui est étonnant quand on connaît ton travail.
Mais voilà, justement, alors, par contre, quand je viens à une œuvre, à un de mes dessins, bah, y a du monument, à la rigueur. Donc, je pourrais presque, entre guillemets, parler de ce qui est représenté comme...
Des formations professionnelles.
Il y a peut-être ça, mais de toute façon, c'est le métier de guide conférencier qui m'a appris à parler vraiment au public.
Des formations
donc,
professionnelles.
C'est
mais
une
t'as du mal à parler de toi
logique.
et de l'âme de ton dessin.
Moi, c'est particulier parce que, d'ailleurs, tu vois, j'ai commencé ma phrase en disant « moi, c'est particulier ». J'ai toujours l'impression...
d'être obligé de te justifier.
Pas seulement de me justifier, j'ai toujours l'impression de faire du « moi-je » quand je parle de moi.
Et alors que non, c'est là où, alors là je me permets, et on est dans un débat, c'est assez rigolo parce qu'on est là pour parler d'une expo et d'un coup d'un seul en débat. Mais c'est bien aussi. C'est que tu parles pas de toi, tu parles de ton œuvre. Et ton œuvre, c'est une extension de toi. Mais c'est une extension de toi qui est cachée. Donc en fait, tu ne parles pas de ton moi, tu parles de ton moi
de ce qui en découle.
Mais c'est pas facile. Après, j'ai pas dit que c'était facile.
Et voilà. Mais c'est pour ça que je préfère parler de l'œuvre, la démarche. Après, je pense, c'est déjà arrivé de toute façon. Il suffit que qu'on masticote un petit peu, si tu veux. Bah,
c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire là.
Et après, ça part.
Bon. Oui. Mais oui, parce que t'es quand même quelqu'un qui parle facilement malgré tout. Mais tu parles grâce. Tu parles également via ces dessins. On parlait tout à l'heure de déformation, de déstructuration. On t'a connu sur les tableaux très classiques. Le côté déstructuré, comme des villes suspendues sur des rochers en plein air et tout ça. Ça t'est venu comment, cette idée?
Dans la mesure où je travaille un petit peu la bande dessinée et des histoires complètement irréelles, l'idée m'a toujours un petit peu travaillé, mais c'est vrai qu'il faut commencer par ces vues classiques-là. Il m'arrive d'en faire encore, attention, vues classiques d'abord, parce que parfois il y a ça, et puis il y a des commandes
aussi, c'est vrai.
Donc, ça m'a toujours un petit peu travaillé. C'est-à-dire que le plus dur a été de franchir le pas, et franchement, le premier dessin dans ce sens-là, sur le moment, je me suis dit, ce n'est pas possible, ça ne plaira pas, on va rigoler de ça, on va se dire, mais ça correspond à rien. Et en fait, aujourd'hui, c'est l'inverse en réalité qui se produit.
Donc ça interroge, tu vois, c'était là où tu avais toi un doute sur le côté, est-ce qu'ils vont accepter que je fasse autrement, et d'un coup d'un seul, non,
Le pas a été franchi. Alors dans la mesure où il y a la création, c'est-à-dire qu'il peut y avoir l'idée, mais le résultat final ne me satisfait pas toujours.
C'est-à-dire, alors explique-nous juste.
Une création, ça peut être raté, tout simplement. Voilà. Quand on part de quelque chose de complètement réel, si on travaille comme il faut le monument qui est devant soi, voilà, le dessin, on y arrive. Mais la création, le résultat final peut ne pas correspondre à, éventuellement, ce que j'aurais pu imaginer, ou même si ça correspond, voilà, ça ne fait pas un dessin formidable.
Ça ne fait pas l'effet que tu avais, toi.
Voilà. C'est pour ça que le travail de création est quand même, c'est une étape supplémentaire par rapport au seul travail technique.
Donc ça, ouais, c'est quelque chose qu'on retrouvera également dans les 12 propositions que tu nous fais. Il y en aura de ça, du déstructuré. Il y aura du classique, du déstructuré.
Il y a des vagues. Quand il y a des monuments qui prennent la forme de vagues, on me dit ah tiens, okuzai.
Ah bien, la vague.
La vague d'okuzai, c'est très bien. Mais en réalité, c'est
la référence des estampes japonaises. Voilà.
Mais en réalité, des vagues, plusieurs artistes en ont fait.
Bien sûr. Celle-ci est tellement connue qu'elle est référence. Et c'est vrai que la courbe est tellement c'est vrai que ça maintenant que tu me le dis, tu vois, j'avais pas fait le parallèle moi du coup, mais sur certaines de tes œuvres, oui, maintenant cette courbe là peut ressembler à ça.
Il y a des vagues, mais par contre mes vagues, elles ont de l'architecture. Voilà la grande différence aussi avec Okuzai. Donc oui, il y a de ces deux techniques. Donc il y a des œuvres totalement déstructurées, mais il y a par exemple une vue du chevet de la cathédrale très classique parce que bon. On est dans un lieu qui s'y prête pour ça.
Exactement, ouais. C'est pas comme si on y était.
Voilà.
comme tu dis. On va être obligé de se quitter, Silvio. C'était un plaisir de t'avoir. Je sais qu'avec toi, on pourrait faire des tonnes et des tonnes et des tonnes, d'émissions, et on pourrait, je pense qu'on aura l'occasion de te réinviter, pour continuer à parler de ton travail et peut-être d'autres moments ou de partenariats, puisque tu parlais également de collectifs dont tu faisais partie. Et si tu as l'occasion, de revenir, ça sera avec plaisir. On va rappeler toutes les informations jusqu'au 21 mai au niveau de la salle des Beaux-Arts. Vous retrouverez bien sûr l'exposition Architecture de notre ami Silvio. Vous oubliez pas également le temps qui vous sera proposé le jeudi 4 mai à 12h15 pour les jeudis midi, la rencontre avec bien sûr Silvio qui vous permettra vraiment de parler avec lui, et je vous promets qu'il a essayé aujourd'hui de raconter un peu son histoire, et il continuera avec vous. Il s'est un peu, voilà, tu t'es un peu confié avec nous aujourd'hui. C'était un bonheur de
merci.
T'avoir. Merci Sylvio d'avoir été présent avec nous. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Bien sûr, toutes les infos, vous les retrouvez sur le site de l'office, hein, www.angoulême-tourisme.com, pour récupérer les infos de Sylvio. On va se retrouver, nous, la semaine prochaine, toujours avec un nouvel invité pour l'émission de l'Office de tourisme du pays d'Angoulême.
Merci Enrico, et donc retrouvez le podcast de l'émission sur attitudefm.com, rubrique podcast. Bonne journée à l'écoute d'Attitude.